Avertissement du rap Camp Culture numéro 19 du 3 septembre 2021. Dans cet avertissement, il est question de la légionnaire d'automne, de la fragilisation des tiges du maïs causée par la sécheresse et du dépistage des maladies dans cette culture, et de la détection de l'amarante tuberculée dans les champs de soya. Légionnaire d'automne, vigilance recommandée dans plusieurs cultures. En Ontario, des dommages de légionnaire d'automne ont été signalés dans des champs d'avoine, de seigle, de prairies et de céréales récemment semées. Des champs de luzerne dans l'est de l'État de New York ont aussi été sévèrement infestés par des larves. Les captures de papillons du rap maïs sucré au Québec sont actuellement élevées. La vigilance est donc de mise au Québec, et ce, dans plusieurs cultures, jusqu'à la fin septembre. Les papillons pondent sur de jeunes plants, incluant des mauvaises herbes. Même si le maïs de grande culture et certains champs de soya semés tardivement pourraient être menacés par les larves de la légionnaire d'automne, le risque est plus grand pour les prairies, les cultures de couverture et les céréales d'automne. Le développement larvaire s'étend sur 2 à 3 semaines. La légionnaire d'automne peut causer des dégâts de grignotement importants, causer des galeries et couper des tiges. Tout comme la légionnaire uniponctuée, la légionnaire d'automne peut migrer d'un champ à l'autre. Il est donc important d'éviter de semer les céréales d'automne ou une culture de couverture près d'un champ infesté. Si un ressemis est envisagé après une infestation, il est nécessaire d'attendre 14 jours avant de procéder pour s'assurer que les larves ne s'attaquent pas à la nouvelle culture. Si la quantité de larves observées dans une prairie justifie une intervention, il peut être envisagé de devancer la fauche, mais il faut s'assurer de conditionner le foin rapidement afin d'éviter que les larves ne continuent à s'alimenter du foin. Dans tous les cas, un traitement insecticide ne devrait pas être appliqué sur des larves dont la taille est supérieure à 2,5 cm, puisque le traitement n'est plus efficace. Les larves peuvent cependant faire des dégâts jusqu'à leur maturité, c'est-à-dire lorsqu'elles mesurent 4 cm. Ainsi, il est nécessaire de visiter régulièrement les champs à risque dans les prochaines semaines afin de s'assurer de pouvoir intervenir sur des jeunes larves non parasitées si le seuil économique d'intervention est atteint. La présence d'œufs, blancs et ovales, derrière la tête, est un des signes de parasitisme les plus faciles à observer. Dans le cas des céréales, le seuil économique d'intervention est de 4 larves ou plus par zone de 30 cm par 30 cm, c'est-à-dire un pied carré. Pour ce qui est des cultures fourragères au stade plantule, le seuil est de 2 à 3 larves par zone de 30 cm par 30 cm. Dans le cas des cultures fourragères implantées, le seuil est de 5 larves ou plus par zone de 30 cm par 30 cm. Et pour le soya dont le stade n'a pas dépassé le stade R5, le seuil économique d'intervention est de 25 % de défoliation. Dans l'avertissement, vous avez des liens pour accéder aux insecticides homologués par type de culture. Dans le maïs grain, il est rarement justifié d'intervenir contre la légionnaire d'automne, d'autant plus que plusieurs technologies BT protègent la culture contre cet insecte. Pour savoir si un hybride agit contre l'insecte, consultez le tableau maïs BT disponible au Canada. Il est trop tard pour appliquer un insecticide dans le maïs grain puisque les larves sont protégées par les feuilles des épis. Comme les larves peuvent créer une porte d'entrée pour certaines maladies, un dépistage des moisissures des champs atteints est recommandé. Pour plus d'informations sur la légionnaire d'automne dans le maïs grain, consultez l'avertissement numéro 16 du 13 août 2021. Maïs, fragilisation des tiges causées par la sécheresse et dépistage des maladies. Pendant la période de remplissage des grains de maïs, des stress importants, tels que la chaleur extrême et la sécheresse qui ont sévi dans certaines régions du Québec, peuvent compromettre la santé des tiges. Ces stress réduisent la photosynthèse et donc la production de glucides nécessaires au remplissage des grains. Les glucides emmagasinés dans la tige sont alors réacheminés vers les grains aux dépens de la tige. Cela peut affaiblir la tige, la rendant sensible à l'averse et aux pourritures des tiges. évaluation de l'averse et dépistage des maladies affectant la tige. Ces évaluations devraient être faites entre les stades R5, grains généralement dentés, et R6, c'est-à-dire la maturité lorsqu'il y a accumulation maximale de matière sèche et la formation d'un point noir à la base des grains. Les champs présentant les caractéristiques suivantes sont plus à risque et devraient être dépistés en priorité. Système racinaire peu développé et peu profond ou tout autre facteur ayant restreint la croissance des racines, telle la compaction. Sol sableux, sol ayant une faible capacité de rétention d'eau. Et maladies foliaires et dommages aux feuilles en début de saison. Le dépistage peut se faire selon deux méthodes, soit le test de la poussée ou le test de la pincée. Voici la méthode pour réaliser le test de la poussée. Choisir au hasard 20 plants à 5 endroits bien répartis dans le champ pour un total de 100 plants. Pousser la partie supérieure du plant de manière à l'écarter de 15 à 20 cm de l'axe vertical pour voir si la poussée cause de l'averse ou non. Et déterminer le pourcentage des tiges pourries. Test de la pincée. Choisir au hasard 20 plants à 5 endroits bien répartis dans le champ pour un total de 100 plants. Enlever les feuilles inférieures et pincer la tige au-dessus des racines échasses. Si elle peut facilement être écrasée, la pourriture de la tige se développera probablement. Les symptômes peuvent aussi être observés en coupant la tige en deux sur la longueur. Puis déterminer le pourcentage de tiges pourries. Les dommages attribuables aux pourritures de la tige sont principalement causés par trois champignons, soit Cladosporium, Coletotrichum ou Gibberella fusarium. Ces champignons pathogènes affectent le transport des éléments minéraux dans la plante, ce qui peut nuire au remplissage des grains et rendre les tiges plus sujettes à l'averse. Le genre Fusarium est un des principaux producteurs de mycotoxines. Les plantes infectées flétrissent et les feuilles passent d'un vert clair à un gris terne, comme si elles avaient souffert d'un gel ou de la sécheresse. Dépendamment de l'espèce, le tissu intérieur des tiges paraît effiloché et sa couleur peut varier du blanc, rose, saumon, jaune ou orangé. Il se produit alors une coloration jaune à orangée aux entre-nœuds inférieurs et une coloration rose à rougeâtre à l'intérieur de la tige. Des conditions de stress telles que la sécheresse peuvent les rendre plus vulnérables face à l'espèce Fusarium verticilloides. En plus d'évaluer la solidité des tiges, il est pertinent de dépister les maladies du maïs à cette période de l'année pour identifier les maladies présentes au champ et prendre des actions préventives, notamment pour la récolte, mais aussi pour les saisons à venir. Par exemple, les champs ayant des tiges affaiblies et donc à risque de verse devraient être récoltés en premier. Le dépistage permet aussi d'évaluer la tolérance de différents hybrides aux maladies et l'efficacité d'un traitement fongicide effectué plus tôt en saison, s'il y a lieu. Dépistage des maladies foliaires. Selon une récente enquête réalisée au Québec, les principales maladies foliaires du maïs sont la rouille commune, le dessèchement, la cabaciellose et l'anthracnose, laquelle peut s'attaquer tant aux feuilles qu'à la tige. Pour accéder à des photos et à la description des symptômes concernant ces maladies, consultez l'avertissement numéro 21 du 3 septembre 2020. Dépistage des maladies affectant les épis. Certains champignons peuvent provoquer le développement de moisissures sur les épis. C'est aussi au stade R5 et R6, soit vers la mi-septembre ou quelques semaines avant la récolte, que les épis devraient être examinés pour y déceler leur présence. Récoltez à la main au moins 30 épis à différents endroits au hasard dans le champ. Les spathes, c'est-à-dire les feuilles qui recouvrent l'épi, doivent ensuite être retirées afin d'observer la présence de moisissures à la surface des grains. La fiche technique « Les moisissures de l'épi du maïs-grain » permet d'en savoir plus sur les symptômes de ces maladies et leur potentiel ou non de produire des mycotoxines. Si des moisissures sont observées, il est recommandé de faire analyser les grains pour détecter la présence et les niveaux de mycotoxines. Devancer la récolte et prévenir la prolifération des mycotoxines lors de l'entreposage. En Ontario, il est recommandé de récolter le plus tôt possible un champ dont 10 % des épis sont atteints de moisissures. Si des dommages par les oiseaux sont évidents, souvent en bordure de champ, récolter séparément les rangs endommagés et idéalement conserver et manipuler les grains, le grain de ces rangées à part. De même, si un champ de maïs comporte de 10 à 15 % de tiges pourries ou de plants versés, il est préférable de devancer et de faire rapidement la récolte afin de freiner la progression de la maladie et la production éventuelle de mycotoxines. Les éventuels frais supplémentaires de séchage seront compensés par la plus grande facilité de récolte et la moins grande perte au champ. Le séchage des grains doit être réalisé immédiatement après la récolte afin que l'humidité des grains ne dépasse pas 14 degrés, car au-delà de ce taux, les moisissures et les mycotoxines continuent de se développer. Il faut également s'assurer de vérifier souvent la température, l'humidité et l'état du grain entreposé. Consultez le guide « Ventilation et conservation des grains à la ferme » pour obtenir plus d'informations sur l'entreposage des grains. Pour ce qui est du maïs en silage, une fois mis en silo, les champignons ne devraient pas se développer et produire de toxines, mais pour cela, les conditions doivent être complètement anaérobiques, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Ainsi, un tassage insuffisant de l'ensilage, une couverture qui n'est pas étanche ou un faible taux de décilage favorise la production de mycotoxines dans l'ensilage. Il faut également viser à ce que la taille du silo convienne à la taille du troupeau afin que le rythme de consommation quotidienne d'ensilage soit plus rapide que la détérioration qui survient inévitablement lors du décilage. L'emploi d'un inoculant, qui permet d'abaisser rapidement le pH de l'ensilage, contribue aussi à diminuer le risque de formation de toxines une fois l'ensilage récolté. Renseignez-vous auprès de votre agronome pour connaître les conditions de récolte et d'entreposage adaptées au contexte de l'entreprise. C'est la période idéale pour détecter l'amarante tuberculée dans les champs de soya. À cette période de la saison, des plants de certaines mauvaises herbes dépassent le soya, ce qui facilite leur observation. Si vous voyez de tels plants, il est important de les examiner de près pour les identifier correctement. Contactez votre conseiller agricole en cas de doute. Soyez particulièrement vigilant afin de détecter la présence d'amarantes tuberculées tôt avant qu'elles ne se propagent sur l'entreprise. Il s'agit d'une mauvaise herbe récemment introduite au Québec qui résiste à un ou plusieurs groupes d'herbicides et qui est très prolifique. L'amarante tuberculée est souvent confondue avec d'autres espèces, notamment l'amarante à racines rouges et l'amarante de Powell. L'amarante tuberculée se distingue par les caractéristiques suivantes. Des feuilles plus étroites, une tige complètement glabre, c'est-à-dire sans poils, et une efflorescence moins compacte et comportant plus de branches. De plus, l'amarante tuberculée est la seule amarante au Québec dont les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des plants différents, ce qui peut donner l'impression d'avoir affaire à deux espèces différentes. À cette période de la saison, plusieurs plants d'amarante tuberculée portent déjà des graines viables. Si vous soupçonnez la présence d'amarante tuberculée dans un champ, appliquez rigoureusement les mesures de biosécurité qui s'imposent afin d'éviter la dispersion des graines qui se trouvent sur les plants et celles qui se trouvent au sol. Par exemple, portez des bottes de plastique et un habit de protection jetable, stationnez votre véhicule à l'extérieur du champ, etc. D'autres espèces de mauvaises herbes sont parfois confondues avec l'amarante tuberculée, notamment le chénopode blanc, la petite herbe à poux et l'armoise bisannuelle. Au besoin, n'hésitez pas à consulter votre conseiller, à envoyer des photos à mauvaiseherbes@mapac.gouv.ca www.qc.ca ou à envoyer un échantillon au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Si vous trouvez de l'amarante tuberculée pour la première fois sur votre entreprise, vous pouvez vous inscrire au plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amarante tuberculée au amarantetuberculée.ca. Ce plan vous donnera accès à de l'accompagnement et à de l'aide financière pour la gestion de cette mauvaise herbe. Dans l'avertissement, vous trouverez des photos de l'amarante tuberculée, de l'amarante de Powell, de l'amarante à racines rouges, de la petite herbe à poux, du chénopode blanc et de l'armoise bisannuelle. Et on vous réfère également vers différentes fiches techniques sur l'amarante tuberculée et sur un document concernant la résistance des mauvaises herbes. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter ou contacter le secrétariat du RAP.